Laurent Fréchette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire au cabinet Hogue Fortier Fréchette et spécialisé auprès des familles ayant des besoins particuliers. On discute aujourd'hui de comment on peut préparer le futur de notre enfant en prévision de notre décès. Évidemment, 10 minutes, c'est très court pour parler de tout ça. On voulait mettre l'accent aujourd'hui, Laurent, sur la fiducie testamentaire parce que c'est peut-être l'angle le plus important lorsqu'on veut commencer à se préparer.
Parfaitement raison. C'est une des solutions qui, dans la situation qui nous préoccupe, est un bel outil avec lequel on peut travailler dans la mesure où on est conscient que on ne peut pas toujours être là et qu'on a à planifier une équipe qui va être autour de notre enfant. Et donc, dans le cas de Charles, j'entendais un petit peu qu'est-ce que M. Germain disait tout à l'heure de surveillance et puis d'encadrement puis d'accompagnement. Alors, la fiducie, au fond, est l'entité qui va se retrouver à recevoir la part d'héritage que M. Germain aurait souhaité donner à son fils. Maintenant, cette fiducie aura pour rôle de voir à veiller sur lui, à assurer ses besoins, à couvrir différentes situations qui vont se présenter pour lesquelles les sommes d'argent, Charles ne pourrait pas par lui-même les administrer. Et au fond, on vient déléguer à des personnes un rôle quasi-parental, dans le fond, de devoir prendre soin de lui.
Donc, un fiduciaire, je pense que c'est le bon terme.
Alors, le fiduciaire, c'est l'administrateur de la fiducie.
Et c'est pas nécessairement qu'une personne, ça peut être un groupe de personnes.
Habituellement, on va recommander qu'il y ait un groupe de personnes, d'une part parce qu'on ne veut pas se retrouver avec trop de pression qui soit mise sur les épaules des gens qui vont avoir à jouer ce rôle-là, à prendre cette responsabilité. Et comme Charles a une longue vie devant lui, ce qu'on lui souhaite, bien évidemment, au fil du temps, ça va être appelé à évoluer, puis la disponibilité de tout à chacun des fiduciaires peut être appelée à être différente. Mm-hmm. Et au fond, on veut pas les brûler du fait qu'ils se retrouvent avec du jour au lendemain une énorme responsabilité d'avoir à couvrir l'ensemble de ses besoins. Donc, en étant à plusieurs personnes, ça permet de partager cette charge-là.
Oui.
Habituellement, on va recommander d'avoir 3 fiduciaires. D'une part parce que c'est un chiffre magique, là. On prend des décisions à la majorité, 2/3. Alors, ça ne vient pas bloquer nos décisions. Si on avait seulement 2 personnes, ben il faudrait toujours qu'ils s'entendent. Et là, c'est un petit peu lourd. À 3, c'est plus facile. Et la responsabilité, au fond, ils vont se la partager entre eux. Chacun va avoir un rôle qui pourra être établi suivant les compétences, les qualités de chacun. Alors, il pourrait très bien en avoir un qui va prendre une responsabilité plus comme un trésorier, si on veut, ou un autre qui va être plus le secrétaire ou l'espèce de boîte postale où toutes les factures ou toutes la correspondance ou toutes les notes vont être conservées. Un lien qui pourra se faire également avec Charles qui pourra se partager entre eux. Alors, en ayant plusieurs personnes, c'est une des façons d'amoindrir les craintes que les gens peuvent avoir à l'idée de devenir fiduciaire, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est la principale difficulté, elle est toujours de trouver
ces personnes-là. Paul, vous avez une question?
Oui, bonjour, M. Fréchette.
Bonjour, Paul.
Merci d'être là, premièrement. moi, ma question au niveau des fiduciaires comme ça, est-ce qu'il y a un lien parental qui doit toujours être respecté, exemple, côté paternel et côté maternel, ou ça peut être des personnes comment je pourrais dire ça, de confiance.
Des étrangers, oui. Contrairement aux situations où on est dans un cas de régime de protection, hein, quand on est en tutelle ou en curatelle, les démarches qui ont à être faites quand on ouvre un régime de protection, on veut absolument avoir une représentation des deux familles pour pas n'écarter une ou l'autre, puis essayer de respecter ce volet-là. Quand on est en matière testamentaire, bien, c'est votre testament. Alors, vous nommez qui vous voulez et personne ne peut intervenir sur le choix de la personne que vous allez, ou des personnes que vous allez faire. De sorte qu'il n'y a pas d'obligation comme telle. C'est beaucoup plus de trouver des personnes qui vont avoir un intérêt direct à être présent dans la vie de Charles. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement une personne qui soit membre de la famille proprement dite, là, ou ça peut être un parent éloigné, puis c'est pas un problème. Mais on choisit nos amis, on choisit pas nos parents. Alors, ça peut vous ouvrir plus de portes que d'aller voir plus large, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en a.
Et vous, Maître Fréchette, vous dites de de s'éloigner des préjugés qu'une personne plus âgée peut aussi être désignée comme un fiduciaire?
Souvent, les parents vont venir nous voir. Et vous savez, moi, c'est plus du tiers de ma pratique qui est orientée auprès de cette clientèle-là là, depuis 20 ans. Et les parents, souvent, vont dire, ben là, je ne suis pas pour nommer mon frère ou ma sœur, il est de mon âge, voire même il y a un an ou deux plus vieux que moi. Et donc, il ne pourra pas être là pour s'occuper de mon fils. On a à faire une projection d'un décès à très court terme et à très long terme. Alors, il faut que je vous fasse mourir le mois prochain et il faut que ma structure tienne la route pendant les 40, 50, 60 prochaines années, soit la vie de Charles. Et en ce sens-là, pourquoi on se priverait des compétences, des talents, de la relation privilégiée, parfois même que certaines personnes vont avoir avec notre enfant, du fait que cette personne-là a 60 ans. Mais écoutez, s'il a 60 ans, il peut très bien être fiduciaire pendant un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, quand on va approcher les fiduciaires, bien, une des façons de dédramatiser toute l'espèce de vision qu'on peut avoir de la lourdeur d'une charge fiduciaire, bien, c'est de dire, écoutez, faisons ensemble une planification, une projection pour les 5 prochaines années. Regardons ensemble, est-ce que vous pouvez être disponible pour les 5 prochaines années? Et que votre engagement et que votre acceptation soient sincères. Donc, si vous ne voulez pas, j'aime mieux que vous me le disiez tout de suite, je ne vous en voudrais pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Ou si votre situation change d'ici 5 ans, avisez-moi et je vais faire une modification avec mon notaire de mon testament pour nommer un remplaçant. Mais à tout événement, j'aurais eu au moins pendant ce temps-là la paix d'esprit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et de dire aux gens, ben, de 5 ans, on se reparlera. On va reviser nos documents, on va revoir. Et vous pouvez accepter aujourd'hui et dans 5 ans changer d'idée ou accepter la charge et au moment de mon décès, dire finalement ça ne me convient plus parce que j'ai un problème de santé, parce que ça, on a un éloignement, parce que, qu'importe. Ou même accepter la charge, la faire pendant un certain nombre d'années et ultimement, dans 10 ans, dire, ben là, je suis rendu à 75 ans, j'ai moins de temps, moins de disponibilité, ma santé n'est pas là, je veux laisser ma place pour la relève. Et là, à ce moment-là, ça permet de le faire. Et en approchant les gens de cette façon, ben on ne se limite pas au niveau de l'âge parce qu'on se dit, j'ai pas à penser que mes fiduciaires doivent absolument être là pour les 30 prochaines années. Et ça rassure les gens également que leur acceptation, elle n'est pas définitive, un petit peu comme les fameux pactes que les Indiens faisaient avec leur sang. Là, c'est à la vie, à la mort. Là, on dit non, on le fait sur ce qu'on est capable de planifier. Puis on va se mettre des mécanismes de remplacement qui vont soit que vous allez déjà avoir choisi ces personnes, ce qu'on recommande, ou qu'on aura fixé des modalités qui permettront de trouver les remplaçants, voire déléguer la nomination du remplaçant par les fiduciaires qui sont en place.
Il y a moyen d'être plus créatif qu'on le pensait, disons, Laurent Fréchette. La question qui revient, je pense, souvent, c'est combien il faut que je laisse d'argent? Est-ce que je vais laisser assez d'argent? Vous répondez quoi à ça?
Bon, encore là, chaque cas est un cas d'espèce. C'est très difficile d'y aller de façon générale. Si on regarde la situation de Charles, où on dit, bon, j'ai un enfant qui reçoit de la solidarité sociale, il y a un montant par mois qui va lui arriver, comment on peut voir à respecter les règles au niveau de la loi pour faire en sorte qu'il ne soit pas pénalisé à l'égard des droits qu'il pourrait recevoir. Donc, on a le droit, dans la mesure où on a une contrainte sévère à l'emploi, on a le droit de recevoir jusqu'à 208 000 $452 en dollars actuels sans être pénalisé au niveau de l'aide sociale. Ce qui veut dire que la fiducie pourrait très bien avoir un montant comme ça ou même voire plus. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas versé ou utilisé cette somme pour Charles, il ne pourra pas être coupé. Alors déjà, ça nous enlève un petit peu de pression en se disant, bon, OK, je sais qu'il y a ces prestations, il y a les services qui vont autour, on a un montant. Il y a toute la question du régime enregistré d'épargne invalidité qui est complémentaire, qui peut être un élément où on crée une petite cagnotte, tranquillement, pas vite, qui va être là pour le long terme. Et encore là, au niveau de l'aide sociale, on peut avoir jusqu'à 200 000 $ qu'on contribue donc en capital dans le REI sans être pénalisé puisque les sommes, lorsqu'on va les décaisser, les normes permettent de pouvoir faire certains retraits, par exemple par une rente et actuellement, on peut recevoir jusqu'à 950 $ par mois sans être pénalisé encore. Ce qui veut dire que ça peut représenter des sommes quand même substantielles. Maintenant, on est en train de prendre le problème à l'envers. Il faut au départ, regarder quels sont les besoins de notre enfant. Mm-hmm. C'est beaucoup plus ça, parce qu'il arrive parfois que les parents vont venir me voir, puis ils ont 2, 3, 4 enfants, puis ils me disent, ben là, on va laisser 80% à notre fils, puis on va diminuer pour les autres, ils sont capables de travailler. Mais si on se retrouve en bout de ligne que les sommes qui vont constituer la fiducie sont tellement importantes que en bout de ligne, on va avoir trop même des revenus, puis qu'on ne touchera même pas au capital. L'objectif n'est pas de laisser une somme importante au moment du décès de l'enfant, comme de combler ses besoins. Alors moi, absolument, je retourne la question à l'envers. Je dis aux gens, arrêtons-nous à évaluer quels sont ses besoins. Oui. Qu'est-ce qu'on couvre comme situation? Et à partir de ça, on sera capable d'évaluer, somme toute, en tout cas, avoir une bonne idée de combien on a besoin d'avoir de revenus par année, voire de capital pour projeter dans le temps.
Oui.
Et ça change complètement l'approche, parce qu'à partir de ça, on peut être en situation de dire, ben j'ai pas suffisamment de sous, comment je vais augmenter le montant? Par exemple, avec l'assurance vie, quand on est assurable, ou avec d'autres sommes qu'on sait qui peuvent être appelées à arriver. L'héritage de grands-parents ou d'autres, oui. d'autres montants qui peuvent être là. Alors, ça c'est peut-être une approche qui est différente. Alors, il ne faut pas s'arrêter strictement à un montant, à un chiffre, comme être conscient. La loi nous permet mm-hmm. certaines choses. Il y a des éléments au niveau fiscal qu'on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais pour lesquels on a droit à certains roulements, on a droit à certaines catégorisations de biens. Lorsqu'on a un enfant qui a son crédit d'impôt de personne handicapée.
Et justement, parlant de temps, Laurent Fréchette, je dois vous arrêter. J'aurais aimé ça continuer avec vous parce que j'aurais eu encore plein de questions. Parce que des notaires spécialisés en fiducie testamentaire, il n'y en a pas tant.
Il n'y en a pas beaucoup.
Mais vous en êtes un, Maître Laurent Fréchette, du côté du cabinet Hogue Fortier Fréchette et spécialisé auprès des familles ayant des besoins particuliers. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir.
Au revoir.